France Inter, le 13-14, Bruno Dulvic.
Et voici d'autres élections importantes, historiques même, selon la ministre du Travail. Elles ont lieu jusqu'au 16 juin. Dans les grandes villes en particulier, des dizaines de milliers de personnes ont trouvé un emploi au fil des dernières années en travaillant pour les plateformes de livraison de repas, de véhicules avec chauffeur, les taxis low cost. Ces personnes travaillent en indépendant, bien souvent sous le statut d'auto-entrepreneur. Dans les faits, elles sont très dépendantes de ces plateformes type Uber ou Deliveroo et les autres qui leur passent les commandes. En Espagne, les travailleurs de ces plateformes sont désormais considérés comme des salariés avec les droits qui vont avec. Au Royaume-Uni, ils ont un statut particulier. En France, on fait un pari différent, améliorer leurs revenus, leurs conditions de travail via le dialogue social. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, se tiennent des élections professionnelles. Ces travailleurs vont élire leurs représentants. Alors, est-ce réellement de nature à améliorer leur vie quotidienne? Dans quelles conditions travaillent ces chauffeurs, livreurs? Voilà pour notre sujet jusqu'à 13h45. Sujet important, car il raconte aussi l'évolution d'une partie du monde du travail. Je vous attends au standard 01 45 24 7000. Que vous soyez chauffeur, livreur ou que vous fassiez appel à leur service. Vous pouvez aussi utiliser l'appli France Inter, rubrique Réagir, pour vos questions. Bonjour Bruno Mettling.
Bonjour.
Auteur d'un rapport de référence sur ces travailleurs des plateformes et président de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. D'abord, ces élections vont peut-être nous permettre d'en savoir plus sur le nombre de chauffeurs et de livreurs. Quels éléments avez-vous là-dessus ?
Absolument. Écoutez, nous avons établi des listes extrêmement précises et aujourd'hui, nous estimons à 39 000 chauffeurs VTC, ceux qui sont appelés à voter, et à 84 000 livreurs. Ça veut dire qu'au total, on parle bien d'une population de plus de 120 000 travailleurs dans notre pays aujourd'hui.
120 000 inscrits, est-ce que vous pensez que beaucoup ne se sont pas inscrits? C'est-à-dire, est-ce que vous estimez la part qui reste en dehors de ces radars-là?
Non, d'abord parce que, par principe, j'allais dire, les inscriptions, les données nécessaires ont été transmises par les plateformes qui utilisent ces chauffeurs. Ouais. Et puis un travail très rigoureux a été fait par l'organisation, dans le cadre de l'organisation du scrutin. Donc on est assez confiant et on vous pour preuve que plus de 98% des emails qui ont été envoyés vendredi pour ouais. donner les mots de passe et les clés nécessaires à l'élection ont été ouverts. Donc on voit bien qu'on est sur quelque chose d'assez précis, étant entendu qu'il faut 6 mois d'ancienneté. Donc voilà, d'accord. J'anticipe un certain nombre de débats, tout le monde n'est pas inscrit, mais parce qu'il fallait au moins 6 mois d'ancienneté pour qu'on puisse figer les listes d'électorales.
Et vous l'avez dit en parlant des codes, c'est un vote électronique.
Absolument, 100% électronique.
Alors, fixons les choses. Aujourd'hui, ces travailleurs, quel est leur statut ?
Vous l'avez dit, ces travailleurs sont aujourd'hui ont un statut de travailleurs indépendants et en particulier d'auto-entrepreneurs. Vous savez que c'est le modèle sur lequel ces plateformes se sont développées. C'est un modèle évidemment qui est contesté, qui est débattu. Et vous l'avez dit, il y a une voix française consistant à dire, nous estimons qu'effectivement le statut d'indépendant pour des tas de raisons, notamment la liberté de ses horaires, qui est un point important, le fait de pouvoir travailler pour plusieurs employeurs concurrents simultanément, tous ces éléments-là font qu'ils ont un statut d'indépendant, mais pour autant, on considère que le déséquilibre de droits et de protection qu'ils ont n'est pas compatible avec notre système social. Ouais. Et c'est là qu'une voix française émerge, effectivement, qui consiste à dire il faut organiser la représentation de ces travailleurs pour qu'ils puissent négocier. Et l'autorité de régulation dont j'ai la présidence est chargée précisément d'organiser ce dispositif. Je le rappelle en passant, vous l'avez dit, c'est un point important. On oppose souvent ce statut de travailleur indépendant et demain de représentation des droits et d'amélioration des droits au statut de salarié. Attention. En Europe, souvent, le statut de salarié dont on parle, et vous l'avez dit pour l'Angleterre, ce n'est pas un statut de salarié plein et entier. Mmh. Et il faut dire que dans notre pays, les concertations que j'avais pu mener avant tout ce dispositif m'ont convaincu du MEDEF à la CGT, personne ne voulait d'un tiers statut, c'est-à-dire d'un statut de salarié dégradé, au cours duquel, par exemple, en Angleterre, les chauffeurs sont workers, comme on dit, c'est-à-dire que l'employeur n'est tenu de leur fournir aucune heure d'obligation de travail. Et donc, on n'a pas voulu en France prendre de risque de déstabiliser le statut de salarié à l'occasion, évidemment, de l'intégration de ces nouvelles formes d'activité. À l'inverse, on ne se satisfait pas d'une situation.
En quoi ça déstabiliserait le statut de salarié? Parce qu'en Espagne, en revanche, le choix du statut de salarié a été fait. En quoi ça déstabiliserait?
Deux éléments très concrets, parce qu'il faut être précis. Le libre choix des horaires. En France, une des grandes obligations de l'employeur, évidemment, c'est de fournir une plage horaire. Et l'obligation du salarié, c'est d'être présent à ces horaires-là. Vous savez que ces formes de travail comportent la liberté des horaires. Et en France, l'obligation, la référence à un régime de temps de travail est d'un des piliers du statut de salarié. L'autre élément, c'est la loyauté à son employeur. Quand on est salarié en France, on a une obligation d'employeur. Vous êtes journaliste de France Inter, et vous devez loyauté à votre employeur. Vous savez très bien qu'ils peuvent travailler pour plusieurs plateformes, y compris plateformes concurrentes. Encore une fois, le fait de constater la difficulté de concilier le statut de salarié à la française, avec les droits et obligations qu'il emporte, ne veut pas dire pour autant qu'il faut se satisfaire du déficit de droits. Et c'est pour ça que ces élections sont organisées et qu'ils auront des représentants pour négocier avec les plateformes.
Alors, déficit de droits, allons-y. Le statut d'indépendant veut dire quoi en termes de congés payés, de retraite, de santé ?
Très clairement, le statut d'indépendant signifie que le travailleur indépendant détermine librement, par exemple, ses temps de congé, ses temps d'organisation de son travail, il décide de travailler ou de ne pas travailler. C'est un premier élément. Le deuxième élément du statut d'indépendant, c'est que c'est une négociation commerciale, c'est un contrat commercial qui fixe votre relation avec votre donneur d'ordre. Mmh. Quand vous êtes travailleur indépendant, freelance par exemple, le journaliste, eh ben, les tarifs sont convenus par accord des parties, il n'y a pas de prix minimum garanti. Donc c'est tous ces éléments-là du statut d'indépendant qui fonctionnent bien dans la grande majorité des métiers d'indépendants, mais qui dans le cas d'espèce, parce qu'il y a une relation déséquilibrée, oui, doit être corrigée par des droits, par la négociation collective.
Et qui veut dire qu'ils cotisent pas ou peu, à la fois pour leur retraite et pour leur santé.
Exactement. Ça veut dire, par exemple, qu'en matière de santé, il y a un régime des indépendants en France. Il y a un RSI qui existe, il y a donc un régime des indépendants. Mais que l'expérience montre que par rapport à des situations d'accidents professionnels, des maladies professionnelles, les gens sont peu ou mal couverts. Et donc, un des enjeux qu'il y a, évidemment, c'est d'améliorer par un système de type complémentaire santé, comme on l'a dans le secteur, comme les salariés l'ont, la couverture sociale et médicale. Et puis, l'autre enjeu, je le dis, c'est que, par exemple, en matière de revenu minimum, dans le cadre de ces indépendants, la relation, évidemment, est extrêmement déséquilibrée entre les plateformes et ces travailleurs. Et donc, un des grands enjeux de la négociation, ce sera qu'il y ait un prix minimum de la course, voilà, pour tous les salariés, tous les livreurs et tous les chauffeurs VTC, qui garantissent, encore une fois, que ce n'est pas des algorithmes qui fixent uniquement l'évolution du prix de ces relations.
La plupart des 120 000 dont nous parlions au début de cet entretien, combien gagnent-ils ?
C'est très variable. C'est très variable parce qu'encore une fois, vous avez le statut, vous avez par exemple beaucoup d'étudiants qui font ce job en complément d'une activité. Vous avez à l'inverse des gens qui travaillent des quantités d'heures considérables pour dégager un peu plus d'un SMIC quand on a effectivement des palettes d'heures extrêmement élevées. Donc on voit bien qu'il y a une diversité de situations.
Ce qui veut dire qu'ils sont loin du SMIC horaire.
Ça veut dire qu'ils sont loin du SMIC horaire, vous avez tout à fait raison. Et ça veut dire que surtout, il y a des aléas sur les conditions de fixation de la rémunération qui font qu'ils ne peuvent pas savoir, quand ils prennent une course, très souvent, les conditions dans lesquelles celle-ci est établie et leur rémunération. Donc on voit bien qu'il faut progresser sur trois grands thèmes. Le revenu minimum de la course, pour avoir un minimum de garantie quand on prend une course. La deuxième thématique, c'est la transparence des conditions de travail, pour que ceux qui cumulent les heures et des temps de repos, qui effectivement qu'on garantisse un certain nombre... Encore une fois, ce sont des droits fondamentaux des travailleurs, dont on parle là, dans un système européen. Donc il faut qu'il y ait des temps de repos et des aménagements, j'allais dire, des conditions de travail. Et puis un troisième sujet extrêmement sensible, c'est la transparence des algorithmes, les conditions d'information, les conditions de déconnexion de ces chauffeurs. Et sur tous ces éléments-là, il faut que des négociations s'ouvrent.
Juste une question, quand on disait à l'instant, une bonne partie d'entre eux n'ont pas le SMIC horaire. Je pense aux auditeurs qui doivent se dire, mais le SMIC horaire, c'est une obligation absolue en France. Comment c'est possible ? C'est lié au statut d'indépendant, justement.
Exactement. Exactement. Le statut d'indépendant, c'est une relation commerciale. Vous fixez librement le niveau de la prestation entre les parties.
Est-ce que aujourd'hui, les chauffeurs et les livreurs connaissent le montant de la prestation qu'ils vont fournir et peuvent le refuser ?
Oui. Alors le principe, c'est
avec le risque de perdre des courses s'ils refusent trop.
Exactement. Et avec la transparence des algorithmes et de perdre évidemment l'affectation des courses, vous l'avez dit. Donc ce qui est important, et ça a été rappelé notamment à l'occasion des décisions judiciaires, c'est que le choix, et c'est un élément fondamental du statut d'indépendant, que le choix d'accepter ou non une course ne puisse pas être pénalisant pour le chauffeur concerné. Par contre, ce qui peut l'être, c'est que si vous acceptez une course et puis finalement vous l'annulez. Mais c'est autre chose, hein, pour être très précis.
Sauf que accéder à l'algorithme, à la boîte noire de l'algorithme, est ultra compliqué, Bruno
Mettlin. Très compliqué. C'est au cœur, évidemment, des process de chacune des plateformes. Donc c'est aussi des enjeux commerciaux que de protéger les algorithmes. Et l'enjeu, il est de dire, entre ces boîtes noires et les conséquences concrètes des décisions, il faut qu'il y ait une étape d'explicitation, le cas échéant d'expertise sur les conséquences pour les livreurs de telle ou telle modification d'algorithme. Et encore une fois, demain, si les négociations aboutissent, aucun algorithme ne pourra conduire à ce qu'il y ait un prix de la course inférieur au prix minimum qui a été décidé par un accord social entre les partenaires.
Dominique au Standard de France Inter. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, voilà, écoutez, je me suis très étonné, moi, que depuis qu'on a ce type de d'entreprise, soi-disant entreprise, qu'on n'applique pas les textes qui existent déjà. Ou il n'est pas permis à quelqu'un qui crée une entreprise avec un seul client de rester entrepreneur. Il est automatiquement, en tout cas via la Sécu, il est automatiquement devenu salarié. Il y a eu des tas de jurisprudence là-dessus. Hein. J'ai des souvenirs il y a assez longtemps, mais par exemple la société Beignet qui avait fait que tous ces chauffeurs étaient devenus du jour au lendemain des chefs d'entreprise. Lorsque le syndicat a posé ça devant la justice,
ouais.
Eh bien, illico passo, tout le monde est revenu comme étant un salarié habituel. Voilà.
Bruno
Mettling. Je crois que les outils existent. Voilà,
Merci Dominique pour cette intervention. Bruno Mettling, quelle réponse?
D'abord, il est exact que ces nouvelles formes de plateformes s'accompagnent de nouvelles formes d'emploi et d'activité, que leur rôle, c'est de les mises en relation entre les travailleurs et, par exemple, les restaurants quand il y a de la livraison. Donc, c'est une forme d'activité qui n'existait pas lorsque le Code du travail a été construit. Et donc, il faut accepter effectivement que ces nouvelles formes d'activité, j'allais dire, s'accompagnent de statuts particuliers, qui est celui d'indépendant qui a été choisi. Encore une fois, ça ne veut pas dire, comme le dit votre auditeur, qu'on doit être dans un déficit de droits, de protection, de couverture, comme malheureusement on l'est encore trop souvent aujourd'hui. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler et négocier.
Et notre auditeur disait que quand il y a un employeur, il y a forcément salariat, mais il y a souvent plusieurs employeurs.
Il y a plusieurs employeurs, une multitude d'employeurs, et puis il y a donneur d'ordre plus qu'employeur, si vous me permettez cette précision.
Encore un mot, Bruno Mettling, sur les 120 000, vous qui avez étudié ça de très près, quel est le profil des chauffeurs et des livreurs? Est-ce que, pour le dire de manière très caricaturale, ce sont des emplois pour des très jeunes personnes, souvent issues des banlieues?
Oui, il y a deux catégories. Il y a, pour les VTC par exemple, c'est typique, et pour une proportion importante de livreurs, ce sont des jeunes qui n'avaient pas accès au marché du travail. Et je crois qu'il faut quand même mesurer ce que veut dire dans notre pays le fait que 120 000 personnes, qui étaient de fait écartées du marché du travail traditionnel et de l'accès au salariat, ont trouvé des activités qui permettent de dégager, encore une fois, un certain nombre d'éléments de revenus et de dignité de situation de travail. Donc attention, c'est un vrai enjeu sociétal que de permettre à tous ces jeunes issus des banlieues. Et puis il y a par ailleurs, par exemple pour les livreurs, des jeunes étudiants qui correspondent à un job de travail. Mais voilà, je partage ce message. Attention, il y a d'un côté un apport incontestable qui est l'accès à l'emploi de ces centaines, de ces 120 000 jeunes issus des quartiers défavorisés. Et pour autant, dans un système comme le nôtre, on ne peut pas accepter un niveau de déficit de droits fondamentaux, comme c'est parfois le cas aujourd'hui. Et c'est à ça qu'il faut répondre.
Question de Denis via l'appli France Inter. Quid des sans-papiers qui sous-louent leur licence?
Absolument. Alors là, on est sur un problème, j'allais dire, de travail clandestin. Soyons clairs que ce dont on parle là, ça s'adresse évidemment aux salariés en situation régulière. Mais je crois que la réalité de cette situation de travail suppose que les plateformes et les pouvoirs publics mènent une action résolue contre ce développement de ce que je me permets de qualifier d'esclavage moderne, qui est les situations de ces travailleurs clandestins, honteusement, j'allais dire, traités ces comptes de sous-traitants.
On sait dire combien, Bruno Mettling?
C'est difficile, non. On n'a pas d'estimation précise par définition. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Elisabeth Borne, le ministère de l'Intérieur, etc., sont extrêmement déterminés parce qu'on ne réussira cette transformation du travail indépendant pour ces chauffeurs et ces livreurs que si on sait s'attaquer aussi à la problématique du travail clandestin.
Et quels moyens de contrôle sur ce terrain-là?
Sur le terrain, ouais. Écoutez, très honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'encore une fois, on est sur du travail clandestin. Ce sont des moyens de contrôle de police. Ce sont des moyens, évidemment, qui consistent à les contrôler ceux qui ont un numéro d'enregistre normal et qui sous-louent à ces travailleurs dans des conditions. Ça veut dire des contrôles. Ça veut dire, évidemment, des pouvoirs de police. Et c'est vers cette orientation-là qu'il faut aller.
Et dernière question. Est-ce qu'il va y avoir débat entre un modèle éventuellement européen qui pourrait se dessiner peut-être aller vers le salariat et un modèle français que vous nous décriviez au début de cet entretien?
Je crois que...
Est-ce que la réforme passera par l'Europe ou par la France?
À mon avis, l'Europe envoie des messages très clairs sur le thème. Vous prétendez que ce sont des indépendants. C'est aux plateformes de démontrer qu'elles respectent, par exemple, sur le refus de la course, le statut d'indépendant. À l'inverse, l'Europe ne dit pas « ce doit être des salariés ». Elle laisse au pays le choix. Et le fait de dire « ce sont des indépendants » ne doit pas vouloir dire en Europe qu'on s'assoit sur les bases d'un système de droits fondamentaux, des droits sociaux fondamentaux des travailleurs en Europe.
Merci Bruno Mettling d'être venu dans les studios de France Inter. Les élections ont lieu jusqu'au 16 mai, hein, c'est bien ça.
Absolument.